Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de Parcours est Maï Binbin. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors, qui êtes-vous, Maï Binbin?
Ah. Il faudrait que je me relise. Que je relise tous mes livres pour essayer de me comprendre qui je suis. Je suis un enfant de la Médina de Marrakech. J'ai grandi au fin fond de la Médina de Marrakech. J'ai 7 frères et sœurs d'un côté. On est 7 frères et sœurs d'un côté et 8 de l'autre. Mon père avait 2 épouses en même temps. Et donc mon père est parti très tôt et j'ai vécu avec ma mère, qui était une jeune secrétaire, qui était vraiment très pauvre, et qui s'est battue pour élever ses 7 enfants. Elle s'est battue seule, elle s'est mise à faire des études à l'âge de 40 ans, elle s'est construite, vraiment, et elle nous a donné cette envie de pas baisser les bras, d'avancer. Et nous avons tous... Mais vraiment, nous avons tous fait des carrières. Mes 3 sœurs sont professeurs à l'université. J'ai un frère qui est à New York. C'est-à-dire, il fallait être le premier dans tout ce que nous faisions. J'avais fait des maths, donc il fallait que je sois très bon en maths. Même celui qui a fait de la prison a fait la même meilleure prison de la planète, Tasma Mart. C'est-à-dire, on faisait rien dans la demi-mesure avec ma mère.
Alors, votre père était féru de littérature arabe, il était professeur d'arabe classique.
Oui, et il était théologien, il était poète, et puis il a été repéré par Hassan II. Comment ça s'est passé? Il y a eu la diva Oum Kalthoum qui venait à Marrakech en 1967, et alors mon père a été chargé par le pacha de la ville, il lui fallait un homme de culture. Donc il a été chargé par le pacha de s'occuper d'elle pendant les 3 jours. Il la promenait en ville, il faisait découvrir les monuments, il lui parlait de poésie, et il lui parlait d'un certain poète qui s'appelle Ben Brahim, qui est peut-être le plus grand poète que le Maroc ait connu, mais c'était un drôle de poète, il était homosexuel et il le disait. À cette époque-là, c'était très compliqué. Il buvait du matin au soir, donc il était tout le temps sous. Et la troisième tare, c'est qu'il est... enfin, si c'était pas, c'est pas des tares, tout ça. Si, l'alcool, si. Mais disons, la troisième tare, c'est qu'il était le poète de Glaoui. Le Glaoui qui était l'homme des Français, qui était pratiquement le roi à l'époque. Donc il récitait des poèmes. On est sous occupation. Le temps où le poète Ben Brahim a vécu, les Français contrôlaient le pays. Et donc c'était un gars qui déclamait des poèmes toute la soirée quand il était sous. Et mon père, qui avait une mémoire d'éléphant, une mémoire exceptionnelle, retenait ses poèmes. Il retenait ses poèmes et le lendemain, quand le poète dessoulait, il demandait à mon père de lui dire ce qu'il avait. Alors mon père lui revendait ses poèmes. Il fallait lui donner une montre, il fallait lui donner de l'argent et lui revendait ses... Donc, mon père connaissait par cœur l'œuvre de Ben Brahim, qu'on appelle le poète de la ville rouge. Il était un type génial.
Et donc, il a récité des poèmes à Oum Kalthoum.
Quand Oum Kalthoum est arrivé, il a passé 3 jours à lui réciter des poèmes. Elle a dit, mais moi, je veux chanter ce gars. Ce gars est de la dimension de Omar Khayyam. Moi, je veux chanter ce gars. Je veux, donnez-moi un recueil. Mais madame, le recueil n'existe pas. Ces poèmes existent seulement dans ma tête. Et alors, elle a chanté 2 ou 3 jours plus tard au palais de Hassan II. Elle lui a dit, mais vous avez un poète génial qui est mort maintenant, et je voudrais un recueil. Évidemment, le pacha al-Glaoui était l'ennemi des Alaouides, hein, parce que le roi était en exil pendant longtemps quand l'autre était le patron du pays. Et le roi n'aimait pas ce poète parce qu'il chantait la gloire du pacha. Mais il était quand même, Hassan II, on peut lui reprocher plein de choses, mais c'était un homme de culture. C'était un vrai homme de culture. Et quand Umm Kulthum est partie, il lui a dit, madame, je vous enverrai son recueil. Quand elle est partie, il a envoyé, à l'époque, le général Oufkir, avec toute l'histoire après, il a envoyé, dit, va, trouve-moi ce gars qui connaît les poèmes par cœur d'Ibn Brahim.
Et c'était donc votre père?
Et c'était mon père. Ils étaient deux ou trois qui connaissaient un peu. Donc, ils sont venus voir, Hassan II les a invités à un dîner. Et il leur a dit, voilà, je vais vous donner tant d'argent, vous ne faites rien pendant 6 mois, et dans 6 mois, je voudrais un recueil d'Ibn Brahim. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mon père m'a dit, on a passé 5 mois à faire la fête à Marrakech, et au bout de 3 semaines, on connaissait par cœur. Et on est revenu remettre le recueil de poèmes, un énorme recueil de poèmes, 500 pages, et vraiment. Et pendant le dîner, Hassan II a dit à mon père, alors maintenant, récite-moi un poème où Ben Brahim insulte le Glaoui. il le dénigre. Et mon père a eu cette réponse, Majesté, ce poème n'existe pas. Et quand bien même aurait-il existé, moi je l'aurais pas appris. Parce que moi j'ai grandi dans la maison de le Glaoui. Mon grand-père était aussi bouffon de le Glaoui. Et donc, à l'époque, on pouvait pas dire ça. L'entourage voyait mon père comme un cadavre en sursis. On parle pas comme ça, Hassan II. Et dire, moi, je n'apprendrai pas un poème où on insulte ton ennemi. Et Hassan II a renvoyé tout le monde, et il a dit, au pire, celui-là, garde-le. Et mon père est resté depuis ce jour-là pendant 33 ans, jusqu'à la mort de Hassan II. C'est devenu son compagnon, ou son bouffon, ou son homme lige, ou je sais pas.
Alors, Maï Bimbin, j'en reviens à vous, parce qu'effectivement, l'histoire de votre père est absolument passionnante, et vous l'avez déjà racontée dans un de vos livres. Mais j'aimerais que vous nous parliez de la maison familiale. Quels souvenirs vous gardez de la maison, des odeurs, des couleurs?
Donc, on vivait avec ma mère. Hein. On était pauvres. Hein. Je vois une machine Singer. Elle avait toujours sa machine en train de nous faire des shorts, des t-shirts, et la journée, elle faisait des pulls avec les aiguilles. Et moi, je me souviens, pendant toute mon enfance, de la machine Singer. C'est moi qui tournais à la main. Je m'étais à côté d'elle. Voilà. Et c'est bon. Je sais pas si c'est des souvenirs gais ou tristes, mais c'est des souvenirs, voilà. C'est comme ça qu'on a vécu. Il y avait une dada, une esclave, parce qu'à l'époque ça existait encore, qu'on a hérité de grand-père. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur elle, Le sommeil de l'esclave, sur cette femme, parce que l'esclavage a été aboli 50 fois, mais les derniers esclaves sont devenus des grands-pères et des grands-mères. Les grands-mères, on les appelle dada. Et moi, j'ai eu une dada. Donc, voilà, c'est cette maison où il y avait dada, qui a été rasée de son village natal, 60 ans plus tôt. Il y avait ma mère avec sa machine Singer, le petit Riyad, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. J'allais à l'école à côté, à pied, donc je traversais la place Jemaa el-Fna pour aller à l'école, et voilà, c'est ça a été comme ça mon enfance.
Et vous vous souvenez aussi de la façon dont on vous parlait de l'islam, des valeurs que l'on vous transmettait à cette époque-là, Maï Bimbin?
Non, vraiment, à la maison, on parlait pas beaucoup de religion. Le ramadan, tout le monde le faisait. Mais les gens le faisaient, non pas parce que du fait religieux, mais ils le faisaient parce que c'est la culture de le faire. Mais on parlait pas tellement de religion à la maison.
Vous étiez dans une école religieuse catholique?
Oui, avant que mes parents se séparent, on m'a mis dans une école, l'école des sœurs, on l'appelait, à Marrakech, sur la place Bebdoukala, qui est une place. D'ailleurs, on retrouve cette école dans mon dernier livre,
Mon frère fantôme.
Je décris l'école des sœurs, je décris la place où il y avait des puisards, des centaines de puisards, et les gens venaient chercher l'eau qui venait de la montagne, il y a un système extraordinaire au Maroc, le système des Kétara, l'eau vient des montagnes et les gens venaient la puiser. Voilà.
Vous êtes aujourd'hui écrivain, peintre, sculpteur. Je sais que pour ce qui est de la peinture, vous êtes un autodidacte. Quel était votre rapport à l'art, justement, vous qui tentez aujourd'hui de faire aimer l'art aux enfants marocains?
J'ai senti très tôt que j'avais envie d'emprunter cette voie. Ça, on le sent. Je pense qu'on est artiste. Et moi, je suis né artiste. Et je voulais devenir artiste à l'âge de 14 ans. J'avais ma guitare, je faisais des machins. À 16 ans, on faisait des concerts avec les copains. Je suis musicien, j'adore ça. Mais pour ma mère, lui parler d'art, ça ne faisait pas. Il fallait aller à l'école, avoir une bonne note, aller à l'université, et après on discute. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon baccalauréat, après je suis venu à Paris, j'ai fait mes études de maths, une maîtrise de maths, après un DSS, et j'ai été prof de maths pendant 8 ans ici à Paris. Et pendant cette période où j'ai gagné ma vie, j'ai voulu devenir artiste, j'ai exploré toutes les voies. J'ai eu la chance de rencontrer un écrivain. D'ailleurs, il y a un très 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 beau moment à l'Institut Cervantes. Il présente l'œuvre de cet écrivain. Une très belle exposition sur lui qui s'appelle Agustín Gómez Arcos. Il est un écrivain espagnol qui a fui le franquisme, qui s'est installé à Paris. Il est arrivé à Paris, il ne parlait pas le français. Il a été à l'Alliance française. Il a appris la langue et il a écrit en français. Voilà. Et ce gars-là, quand je suis arrivé, quand on s'est rencontré, il a compris qu'il fallait me donner un coup de main. Il m'a poussé à écrire.
Alors de quelle manière? Comment ça s'est passé?
Quand Franco est mort, en 75, il a pu retourner en Espagne. Et donc, il passait 6 mois en Espagne et 6 mois à Paris. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant, on s'envoyait un mail mal écrit. À l'époque, on écrivait une lettre. Et on soignait la lettre. Et on soignait la langue. Et on soignait l'écriture. Et on allait à la poste.
Et quand la lettre arrivait, c'était un événement.
C'était un événement. C'est-à-dire, c'est un miracle, elle est arrivée. Et un jour, Agustín m'a dit, mais tu as une jolie plume, hein, tu devrais écrire. Je lui ai dit, mais écrire quoi? Je sais pas, fouille dans des histoires de ta famille. Tu as trouvé des histoires. Et justement, j'ai pensé à cette esclave qu'on a héritée de grand-père, Dada. Et Dada, quand j'étais tout petit, je dormais contre sa poitrine, mais contre ses seins. Elle me mettait à l'intérieur de son caftan, dedans. Et j'étais son chouchou. Et donc j'ai raconté l'histoire de cette esclave qui a été rasiée de son village natal, quelque part en Afrique, et de main en main est arrivée chez nous. Et je raconte l'histoire de son parcours, comme ce qui arrivait souvent à l'époque. Les esclaves étaient engrossés par le maître ou par le fils ou par et l'enfant, soit on lui enlève l'enfant, soit c'était terrible. Et donc je raconte l'histoire de cette femme qui a été engrossée par le père blanc, le maire, le mari de mon personnage central, et qui refuse qu'on lui enlève son enfant. Elle préfère le tuer plutôt que de le laisser lui prendre l'enfant. Voilà. Donc j'ai écrit ce livre. Quand Agustín est arrivé de Madrid, je lui ai dit voilà, j'avais 150 pages. Je lui ai dit regarde, lis-le et dis-moi ce que tu en penses. Il a lu une page et il m'a dit bon ben demain on commence le travail. J'ai dit mais non, ça m'a suffi ce que j'ai lu, demain on commence le travail. Et pendant 3 mois, on allait tous les jours dans un café à Saint-Germain-des-Prés. Quand je sortais du lycée à 3h ou 4h, il m'attendait et il me corrigeait. Ligne après ligne, mot après mot, cette phrase on peut la tourner comme ça, ce passage est trop long, tu me racontes, tu as oublié le personnage central pendant 10 pages, soit on coupe, soit tu me le mets. Il m'a montré la cuisine, c'est une cuisine. Hein.
C'est la preuve que l'écriture s'apprend, contrairement à ce qu'on croit.
Mais ça s'apprend.
Que c'est un travail.
C'est un vrai travail, et c'est un travail logique, et c'est un travail, pour le matheux que je suis, c'est un travail qui se tient. Comme une démonstration de mathématiques. Et une fois qu'on a fini, il a fini les corrections, il m'a trouvé un éditeur, et déjà c'était Stock. Stock qui ont lu le livre. Agustín l'a réécrit pratiquement ce livre. Et ils ont trouvé un livre d'Agustín pas cher, et ils m'ont publié.
cette leçon d'Augustine, elle vous aide aujourd'hui.
Mais
vous pensez à lui toujours quand vous écrivez?
Mais systématiquement. Et quand je relis ce livre, je l'ai relu une fois ou deux parce qu'il y a eu des thèses dessus. Et j'ai relu pour parler aux gens. Et je l'entendais. Je l'entendais me parler. Mais quand on écrit un livre, ici on vous dit, vous êtes écrivain. Non, moi j'ai écrit un livre. Non, on dit, vous êtes écrivain. Il faut écrire un deuxième. Et ça a été extraordinaire. Ce pays est extraordinaire. Parce que, sans le demander, j'ai eu une bourse du CNL, Centre National de Livres, pour année sabbatique, pour pouvoir écrire un deuxième. Et ça n'existe pas chez moi, ça. Ça existe à Paris. Le Paris que nous aimons, pas celui des extrêmes. Le vrai Paris des Lumières. Et on m'a donné une bourse pour écrire un deuxième, et j'ai écrit un deuxième roman, qui s'appelle Les Funérailles du Lait, où là, je parle de ma mère qui attendait mon frère disparu. Mon frère qui a participé à un coup d'État et qui s'est retrouvé dans cette prison qui s'appelle Tazmamat. Mais à l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas que la prison existait. On ne savait pas si les gars étaient vivants ou morts. Et ma mère, elle seule, sentait qu'il était vivant. C'est-à-dire, tous les jours, il y avait son assiette posée à mon frère, comme s'il allait rentrer à n'importe quel moment. Et évidemment, quand il y avait l'anniversaire de mon frère qui approchait, elle nous prenait la moitié du tagine. C'était pour la part de l'absent. Qu'on était bien contents de retrouver à 5 heures quand on revenait de l'école. Donc j'ai écrit le deuxième roman, Les Funérailles du Lait, cette femme qui attend son enfant. Et quand j'ai fini l'écriture, j'attendais qu'Augustine arrive. Et je lui dis, voilà, j'ai fini le deuxième. Il me dit, alors, donne-le à ton éditeur. Et j'ai dit, non, pas question. Il faut que tu le lises, s'il y a des corrections. Il m'a dit, mais je ne suis pas ta mère. Donne-le à ton éditeur. S'il n'est pas bon, ben, change de métier. Et vraiment, hein, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Peu avant sa mort, en 98, j'étais avec lui à l'hôpital. J'étais en train de mourir. Et un jour, il m'a dit, tu ne peux pas savoir la violence que j'ai dû me faire pour ne pas lire ce livre. Mais il fallait qu'on te lâche. Il fallait qu'on se dise, mais tu es un écrivain. Allez, écris. Tu n'as pas besoin de moi.
L'invité de Parcours est Maï Binbin. On se retrouve dans quelques instants.
Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Parcours. Nous sommes toujours en compagnie de Maï Binbin. Vous nous avez raconté comment est né votre deuxième roman, qui a été finalement totalement écrit par vous, contrairement au premier. Alors, je l'ai dit, vous êtes écrivain, mais également peintre et sculpteur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette vocation est née, même si vous nous avez dit il y a quelques instants que vous aviez su très tôt que vous étiez artiste?
J'ai su que j'étais artiste, mais je savais pas quelle voie emprunter, artiste en quoi. Quand je chantais, on m'a dissuadé. Moi, je voulais devenir chanteur de charme. On m'a dit non, c'est pas pour toi, tu chantes comme une casserole. Mais je jouais de la musique. Je me cherchais, je cherchais ma voix. Et puis, la chance de ma vie, ça a été la rencontre avec Augustine. Non seulement il m'a poussé à écrire, il m'a corrigé mon premier livre, il m'a trouvé un éditeur. Mais en plus, il était l'ami de tous les peintres de la place. Et donc, je l'accompagnais dans les ateliers d'artistes. Et je me disais, mais moi, je veux faire pareil. J'avais 25 ans et je bouillonnais parce que quand on commence des carrières d'artistes, on bouillonne. Et on veut vite et on veut tout de suite arriver.
En fait, le secret que vous êtes en train de nous livrer, c'est qu'il faut d'abord s'autoriser soi-même à rêver. Ça n'est pas donné à tout le monde d'être artiste, mais il faut au moins vouloir l'être.
Absolument. Et si aujourd'hui j'ai 5 centres culturels pour les gosses au Maroc, dans tous les bidonvilles marocains, Casa, Tanger, Agadir, Marrakech, Fès, c'est pour dire aux enfants, regardez le monde. Le monde, comment il s'ouvre quand on respire l'art, quand on veut prendre cette voie. Ce qui arrivait avant en France, avec les MJC et tout ça, Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, cette histoire ici. Je ne comprends pas pourquoi, mais les banlieues, elles gagneraient énormément à prendre notre exemple, ou à revenir à l'exemple ancien où la culture était dans toutes les banlieues, tous les coins défavorisés. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qu'on m'a donné, j'essaie de le redonner à mon tour.
Et donc, vous avez vu des peintres, vous les avez vus travailler, vous vous êtes dit, et pourquoi pas moi?
Et pourquoi pas moi? Et me laisser voir, il me laissait les regarder travailler. Et il y avait Georges Bagori, il y avait Miguel Galanda, il y avait, avec lequel on a fait des tableaux à quatre mains. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient des amis d'Agustine, et on allait boire un verre dans leurs ateliers. Et un jour, j'ai acheté du papier canson et de la gouache, et je me suis mis dans ma salle de bain. J'avais un petit appartement de 18 mètres carrés, et j'ai peint. Évidemment, la chance que ont les gens ici dans ce pays, c'est qu'ils peuvent faire tous les musées. Nous, on n'a pas de musée, on en a un ou deux. Là, quand je me balade au Louvre ou dans le musée d'art moderne et je vois les gosses assis en train de dessiner, c'est extraordinaire. Nous, on n'a pas ça. Hein. Et donc, à 25 ans, j'ai fait mon apprentissage que j'aurais dû faire 15 ans plus tôt dans les musées, voir. Donc, à chaque fois que j'allais dans un pays, la première chose, c'était les musées.
Ce qui est extraordinaire, Maï Binbin, c'est que vous êtes un autodidacte, et effectivement, vous avez commencé à peindre à 25 ans. Ça, je trouve que ça donne de l'espoir à tout le monde.
Bien sûr. Ma première exposition, c'était en 1987. Ça veut dire...
j'avais 35 ans.
À 35 ans, j'ai fait ma première grosse expo. Et voilà. Et après, ça a plus arrêté. Après, ça a été des expos un peu partout, et il y a eu l'épisode des États-Unis. Je me suis installé aux États-Unis en 94. Et là, ça a été un peu la folie, puisque j'ai été acheté par un grand musée, le Guggenheim. Et du coup, ma carrière, c'était plus moi qui allais chercher les galeries. C'était les galeries qui venaient me draguer. Et ça, c'est très confortable. Quand on n'est pas obligé d'aller faire le pied de grue devant... Et à supplier les galeries. Non, c'était eux qui venaient, c'était moi qui choisissais. Parce que voilà, et encore maintenant.
Ça a changé totalement votre vie, justement, le fait d'être un peintre dont on s'arrache les œuvres dans le monde entier.
Ben oui, parce que d'abord, j'ai pu arrêter les mathématiques, donc j'enseignais plus. Et surtout, je gagnais bien ma vie. Vous savez, avec les livres, on gagne rien. C'est-à-dire, un tableau que je fais en 2 heures me rapporte la même chose qu'un livre que je mets 2 ans à écrire. Donc il faut être assez masochiste pour continuer à écrire des livres.
C'est vrai qu'on le sait peu, mais les écrivains gagnent très mal leur vie.
Très très mal, très très mal. Moi, tous mes copains, ils sont écrivains, ils sont, et pour vivre, ils sont journalistes, ou ils sont professeurs.
Alors, parlons un peu de votre peinture. Quelles sont vos sources d'inspiration, Maï Binbin? Est-ce que vous pensez aussi beaucoup à l'avance? Est-ce que vous allez peindre, ou bien vous vous laissez guider par votre instinct?
La vérité, je ne sais. À chaque fois, on me demande d'expliquer ce que je fais, et je suis bien incapable d'expliquer ce que je fais. Je travaille, j'entre dans mon atelier, et j'ai l'impression que je suis une espèce de conduit, une espèce de... il y a des canaux de sensibilité, des choses que j'ingurgite la journée, ils passent par ces canaux de sensibilité et ils ressortent sous forme de personnages, de voilà. Donc, mais je serais bien incapable d'expliquer mon travail.
Et est-ce que vous comprenez pourquoi on aime votre peinture?
D'abord, je suis un très bon coloriste. J'aime la couleur. Ça, c'est, il y a des bleus chez moi qui sont absolument magnifiques. Je les aime moi-même. Il y a des bleus. En plus, il y a des bleus à Marrakech. Ce bleu qu'on appelle le bleu majorel, et qu'ailleurs on appelle le bleu clin, et ailleurs on l'appelle, chaque pays l'appelle à sa façon. Donc, on a des pigments magnifiques. Donc, déjà, j'aime la couleur. Mais j'ai une peinture qui retrace un peu ce que je ressens, ce qui fait que, avec la blessure de ce frère qui était emprisonné sous terre dans le noir pendant 18 ans, c'est un choc pour moi. Donc on voit beaucoup d'enfermement dans mon travail. Il y a beaucoup de grilles, il y a beaucoup de personnages cassés, endoloris. Donc tout ce que je ressens se retrouve dans mon travail. D'ailleurs, l'autre jour, il y a mon frère qui est arrivé, mon frère qui était à Tazmamat, et qui est sorti vivant parce que ils étaient...
Un des rares qui a survécu, Aziz.
Aziz, ils étaient 29, il y avait 4 survivants. Donc, dans son bâtiment. Et Aziz est venu dans mon atelier, il m'a vu en train de faire des bonhommes cassés, des... Et il m'a dit, mais moi je suis sorti de la prison Tazmamat, mais pas toi, toi tu y es encore. et là, je crois que j'en suis sorti, là, puisque là, je suis dans des périodes un peu plus douces.
À quoi ressemble votre atelier, puisqu'au début, vous avez travaillé dans votre chambre de 18 mètres carrés à Paris. Maintenant, vous habitez à Marrakech.
J'ai construit ma maison, et oui, là, j'ai fait un atelier de 300 mètres. Énorme, avec 8 mètres de hauteur sous plafond. Non, maintenant, maintenant que les tableaux se vendent bien, je me suis... En bourgeoisie, disons.
Et vous avez une belle lumière, j'imagine.
Ah, une lumière exceptionnelle.
C'est important.
L'architecte, qui s'appelle Andalousi, qui était le meilleur architecte marocain, et il m'a dit, on va s'amuser. Et là, on s'est amusé.
Et donc, vous êtes également sculpteur.
Oui. Ben, tous les peintres, à un moment ou à un autre, ils ont l'envie de passer à la troisième dimension. Tous. Et c'est presque un peu frustrant de pas sortir du cadre de ce qui est de la deuxième dimension. Et j'ai commencé par faire de la sculpture. Là aussi, je ne savais pas faire. Et j'ai trouvé une fonderie en Auvergne, et qui est une des grandes fonderies françaises. Et donc, je travaille entre là et Marrakech.
Et votre objectif, c'est d'avoir des sculptures qui soient dans des lieux que vous aimez.
Mais j'ai créé un jardin à Marrakech, un jardin de sculptures déjà. Pour la COP22, j'ai créé un jardin avec 22 artistes. Et on a offert à la ville un jardin. Et maintenant, je suis en train de construire ma propre fondation à Marrakech. J'ai acheté un terrain, j'ai fait des plans, donc c'est en cours. Et là, ce sera mon musée, voilà. Il faut pouvoir le dire. Mais il y aura 30-40 sculptures monumentales, il y aura un espace de 1000 mètres carrés pour les tableaux, et il y aura évidemment une galerie pour les jeunes dans cet espace.
On vous entend depuis le début de cette émission, vous avez vécu des drames, des joies immenses aussi. Il y a ce rire qu'on entend qui est un peu votre marque de fabrique. On a le sentiment que vous ne vous prenez pas au sérieux alors que finalement vous êtes un artiste reconnu, vos œuvres sont achetées même par des rois. Enfin, c'est quelque chose, je dirais, qui tournerait la tête à plus d'une personne.
Pas pour quelqu'un qui est né... qui est venu de là où je viens. Tout ça, c'est... ça va venir, ça va repartir. Et tant que c'est là, c'est bien. Si c'est pas là, c'est pareil. Mais bon, voilà, je me prends pas la tête. Et tout ce que... On est de passage. Hein. Les gens oublient ça. On est là pour un petit moment. Alors, passons le mieux possible.
Vous avez réalisé tous vos rêves, Maï Binbin?
Non, j'ai encore envie de faire des choses. Là, je viens de finir le scénario d'un film et j'ai envie de me toucher un peu au cinéma.
Il y a eu déjà un lézard qui manquait, oui, à votre palmarès, même si l'un de vos livres a donné lieu à un très beau film de Nabil Ayouch.
De Nabil Ayouch, oui, les chevaux de Dieu.
Et là, magnifique.
Ouais, c'est un beau film. Hein. Et là, je travaille avec une metteur en scène chilienne qui s'appelle Marcela Saïd et qui a fait des épisodes de le film avec Omar Sy, là, à la télévision, le gros truc.
Arsène Lupin.
Arsène Lupin. Donc, elle a fait ses films à elle, elle a fait des séries maintenant en Angleterre, etc. Elle marche très bien. Et elle m'a dit, je veux adapter le Fou du Roi. Et je lui ai dit, fais-le. Elle m'a dit, non, c'est toi qui vas écrire le scénario. J'ai dit, mais je ne sais pas faire. Prenez un professionnel. Elle m'a dit, non, tu vas le faire, je vais t'apprendre. Et donc, elle m'a rejoint aux Canaries. On a passé 3 semaines ensemble. On a bossé tous les jours 4-5 heures. Et j'ai fait le scénario. Elle m'a appris comment on fait un scénario. Et c'est pas du tout la même écriture que le roman, hein. C'est deux mondes différents, hein. On a l'impression qu'écrire, c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Et donc, je commence à réfléchir par plan, par scène. et là, j'ai fait le scénario qui va être une production franco-américaine, et donc là je suis très excité par ça. Donc ça, c'est encore des rêves.
Alors, vous avez beaucoup de rêves. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aussi à vos proches, à la fois vos trois filles, et puis tous ces jeunes qui viennent rencontrer le monde de l'art dans les centres culturels que vous avez créés au Maroc?
Alors, dans le centre culturel, les gosses, ils me voient avec une jolie voiture, ils me voient à la télévision, ils m'écoutent à la radio, et je leur dis, ben, je viens du même endroit que vous. Et vous pouvez aussi faire ça. Si vous travaillez, si vous lisez, si vous regardez des films. Et c'est très agréable de lire, de regarder un film, de danser. On vous demande rien. On vous demande de vous amuser, mais dans le bon sens. Pas en vendant de la drogue. Ou en se shootant. Non. Voilà. Et donc, les gosses, ils sont fascinés. Ils sont fascinés. Et j'emmène mes filles qui sont privilégiées, je les emmène voir ces enfants, travailler avec eux dans les centres. Et j'ai 3 filles maintenant qui sont grandes, dont 2 sont un peu artistes. La première qui est à Los Angeles, elle fait des fashion design, elle est styliste. Et elle vient de faire la Fashion Week de New York. Et la dernière, elle a joué dans le film de Nabil Ayouch, dans Razia. Elle a eu un gros rôle. Donc, elles sont nées dans la soupe. Elles ont envie de faire un peu comme papa.
Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre encore, Naïb Bin Bin?
Moi, tous les jours, j'apprends tous les jours. J'ai plus le temps de lire, mais j'ai découvert le livre audio. Ce qui fait que ces 2-3 dernières années, j'ai écouté toute la littérature russe, allemande, française. Comme je passe 5-6 heures dans mon atelier, eh ben j'écoute, je peins intelligent. J'écoute un roman tous les 3 jours et c'est génial. Je conseille à tout le monde les livres audio. C'est juste une bénédiction du ciel pour les paresseux comme moi qui n'ont plus le temps de lire.
Est-ce que vous avez été changé par la crise du Covid?
Oui, parce que jamais j'ai écrit un livre en 6 mois. Le dernier livre, je l'ai écrit en 6 mois, j'avais rien à faire, j'étais à la maison. Et j'avais pas d'expo, parce que en général, je suis toujours en retard d'une expo. Et donc, j'avais rien de prévu, tout a été annulé. Et donc, j'ai écrit un roman.
Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Naïb Bin Bin?
De voir plus souvent mes amis, c'est tout. Qui sont dispersés. Alors, je les ramène tous à Marrakech. J'ai construit un pavillon dans le jardin, un très joli pavillon. Et tous mes amis viennent de partout passer du temps avec moi, voilà.
Passer du temps.
Oui, passer du temps.
Le temps qu'il vous manque, c'est ça?
Le temps, j'ai pas.
Il vous manque du temps?
Oui, il me manque le temps parce que entre écrire, peindre, faire le tour des centres, contrôler, j'ai plus le temps. Alors le Covid, ou la Covid, j'ai eu mes 3 filles pendant 1 an avec moi et ça a été... Bon, maintenant elles me détestent parce qu'elles en ont marre de leur père. Mais je les ai eues 1 an. Et... j'ai découvert la cadette qui vivait un peu dans son coin. Et là, pendant cette période, on s'est rencontrés, on lit les mêmes livres, on a eu une période d'échange intellectuel, en dehors du fait de papa à la fille. J'ai découvert ma fille. Et elle est brillante. Et vraiment, Leur mère me disait, tu t'occupes pas d'elle, tu t'occupes des deux autres, parce que les deux autres, elles se jettent sur toi, elles t'embrassent. Et pendant cette année, c'était à elles que je m'adressais tout le temps, au point où ma femme disait, mais attends, les autres, tu leur parles. Parce que on était sur la même longueur d'onde, donc j'ai découvert ma cadette pendant la période de Covid.
Dernière question, May Bidbin, que peut-on vous souhaiter?
De faire moins de bêtises et de vivre un peu plus longtemps, parce que j'ai encore des choses à faire.
Merci, May Bidbin, d'avoir été l'invité de Parcours.
Merci. Merci beaucoup.